Bonjour, je m'appelle Benoît et vous écoutez Vous faites vraiment un beau métier, épisode 10, le podcast des artistes et de leur parcours. Dans chaque épisode, un artiste nous raconte son parcours artistique et nous explique les choix et les directions qu'il a prises qui ont fait l'artiste qu'il est aujourd'hui. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous nous retrouverez en tapant Beau Métier Podcast tout attaché. Attention, écrivez Beau, B-O. Vous y découvrirez des bonus comme les coulisses des enregistrements, des photos, des extraits vidéo. Abonnez-vous également sur les plateformes de podcast et n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela améliorera notre visibilité et nous permettra de nous faire connaître du plus grand nombre. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de le dévoiler, mais mon invitée fête cette année ses 25 ans de carrière de chanteuse. Le grand public l'a découverte 3 ans auparavant dans un film de Bertrand Tavernier, L627, une sitcom retraçant la vie de lycéen seconde B. 25 ans, disais-je, dont presque 18 ans en autoproduction par l'intermédiaire de sa société, Lovarium Productions. Pour cela, elle peut compter sur la fidélité d'une équipe forte, mais aussi celle de ses fans, ses ultras, comme elle les appelle affectueusement. Fans qui lui témoignent un soutien indéfectible, comme par exemple lorsqu'elle s'est produite en 2015 sur la scène de la Cigale, 3 jours seulement après les attentats du Bataclan. Je vais d'ailleurs faire énormément de jaloux parmi mes amis, les siens et tous ses admirateurs qui apprendront que je reçois aujourd'hui Isa Ferrer. Bonjour Isa.
Bonjour Benoît.
Ton actualité, c'est cet album XYZ qui est sorti au mois de décembre, je crois.
Oui, fin novembre, le 22 novembre exactement.
Ma question rituelle, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas et que tu lui dis que tu es artiste, quelle est sa réaction ?
Alors, ça dépend quelle personne, ça dépend un petit peu où je la rencontre. Bah, artiste, ça fait toujours un petit peu sourire, des fois un peu peur, comme si certaines personnes nous prennent encore comme des saltimbanques. Est-ce que c'est un vrai métier être artiste ? Mais artiste quoi ? Je me rappelle une fois, petite anecdote, j'arrivais au Maroc où je faisais une scène et je débarque à l'aéroport en montrant mon passeport marqué artiste. Et le douanier m'a fait hurler de rire, il fait « Artiste ! Artiste peintre !» Et voilà, donc, on sait, artiste, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Donc, être artiste, je sais pas, c'est pas net dans la tête des gens en fait. Chanteur, comédien, peintre, la preuve. Donc,
il y a vraiment marqué artiste sur ton passeport.
Ouais, oui, il a dit non, il va demander ce que je faisais ou je sais plus. Enfin, en tout cas, le artiste peintre, ça a fait hurler de rire tout le monde. Donc, je suis chanteuse.
D'accord. Alors, pour comprendre d'où tu viens et comment tu as débuté, on va se plonger dans ton enfance. On va retourner quelques années en arrière, quelques mois.
Quelques semaines.
Quelques semaines, c'est ça. C'est notre première partie qui s'appelle « Les prémices ». Quel était le rôle de la culture dans ta famille ? Est-ce qu'on allait au théâtre, au cinéma ? Est-ce qu'on écoutait de la musique chez toi quand tu étais enfant ?
Alors, on n'allait pas au théâtre. On allait au cinéma, on écoutait de la musique. Mes parents étaient assez festifs. Donc, toute petite, je me souviens de... Ils étaient des parents très bien, ils sont très très bien occupés de moi. Pardon papa, pardon maman. Mais ils m'emmenaient avec eux au bal. Et j'ai un souvenir de m'endormir au milieu de caisses derrière un bar. J'étais vraiment petite, mais la musique m'a vraiment toujours bercé la danse, beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, on aimait écouter de la musique, souvent le week-end, parce que mes parents travaillaient la semaine, donc le week-end, c'était musique, on dansait, mes parents adoraient, se sont d'ailleurs rencontrés dans un bal à Aix-les-Bains. Donc voilà, c'est vrai qu'on était plutôt festifs.
D'accord. Et toi, est-ce que tu avais des idoles, des références ?
C'était plus qu'une idole, c'est une deuxième maman. Moi, celle qui m'a vraiment donné le goût de la chanson et envie de me produire, c'est Dalida. Je dis que c'est ma mère virtuelle.
D'accord.
J'avais, je sais pas, c'était vraiment les émissions des Carpentiers, j'avais 3-4 ans, je sais plus. Et c'est vrai qu'elle me faisait rêver. Là, je trouvais qu'elle avait un charisme de dingue. Et elle avait une allure, elle était très belle. C'était pas sa beauté physique, elle dégageait un truc tellement chaleureux, tellement beau, tellement diva. Et c'était ce qui me faisait rêver, c'était la petite fille qui rêvait de paillettes. Mais elle était toujours très très apprêtée pour... Et en même temps, vous voyez, j'avais vu déjà pas mal de choses sur elle. C'est une femme simple. Moi, petite, je me rendais pas compte de ça, mais c'est après, j'ai été très curieuse par rapport à sa vie, à sa triste vie, quelque part, parce que c'était pas une femme heureuse.
Non.
Et c'est ce qui embellit encore ce personnage qui souffrait, mais qui était tellement belle et tellement... Voilà, on sentait cette écorchée vive à travers ses chansons et à travers son regard, en fait. Et je sais pas, cette dame m'a toujours touchée. C'était une grande dame.
On peut retrouver d'ailleurs des cousinages quand on voit tes visuels, même l'esthétique qu'il y a dans tes spectacles.
C'est peut-être aussi, c'est, en tout cas ça fait partie des gens qui m'ont donné envie d'être toujours, pour moi un artiste, enfin une artiste chanteuse, je me dois de, je suis pas la même à la scène qu'à la vie. Quand c'est un espèce de respect pour mes fans, pour mon public, j'aime me montrer au mieux, c'est la chanteuse, elle est sur scène, donc j'aime faire attention, c'est pour ça que quand je propose un produit comme un CD, bah pour moi, l'emballage, le contenu est aussi important que le contenant. Donc, c'est vraiment, j'aime soigner tout ce qui est esthétique et tout ce qui fait partie du métier.
D'accord. On revient à l'enfance. Quel métier tu voulais faire quand tu étais petite?
Moi, je serais chanteuse et comédienne.
Dès le début.
Dès le début. J'ai jamais dit je serais maîtresse comme ma maman. J'ai pas voulu être infirmière, j'ai pas voulu être coiffeuse, j'ai pas voulu, voilà. Non, c'était vraiment une idée fixe depuis que j'ai 4 ans. Et c'est vraiment pas pour la petite histoire, hein. Et je me déguisais, j'avais ma corde à sauter, ma brosse qui me servait de micro. Je chantais, je m'enregistrais. Un premier cadeau, ça a été un petit radiocassette où je puisse m'enregistrer avec le célèbre manche-disque. Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis toujours. Et voilà, donc mes parents m'ont élevée comme ça. Ils ont entendu ça depuis petite. Après, ils n'ont pas validé tout de suite, mais c'est vrai que j'ai toujours tout fait pour faire ce métier.
Et est-ce que tu chantais à l'école avec tes copines aussi? T'étais plutôt celle qui les entraînait ou plutôt effacée à chanter seule dans ton coin ou à vivre des rêves dans ton coin?
À l'école, j'étais plus théâtre, j'étais moins chanson. La chanson, je la réservais pour la famille. C'est vrai que je chantais dans les repas de famille. Je faisais même la quête dans le chapeau de mon grand-père. Mais j'ai fait les Tréteaux chantants de Chambéry, donc dès qu'il y a eu des occasions de se produire sur une scène, en fait, moi, je voulais la scène. Donc, dès qu'il y avait des espèces de petites traites, des petits radio-crochets, des trucs en pleine ville, je m'inscrivais tout le temps. Par contre, après, j'étais plutôt timide. Et c'est vrai, quand on a un rêve comme ça, toute petite, alors il y a eu la maternelle où je chantais volontiers, dans les maîtresses. Puis après, il y a eu un moment où j'étais beaucoup plus réservée parce qu'on avait plus tendance à un peu se moquer de moi. Du style, elle rêve, elle n'y arrivera jamais. Donc, j'ai plutôt gardé ça pour moi après, en sachant que dans ma tête, c'était exactement la même chose. Et je savais où j'allais.
D'accord. Tu faisais des activités artistiques?
Je dansais.
D'accord.
Je faisais partie de la chorale de mon collège. Je faisais du théâtre. Après, quand j'ai un peu grandi, donc à l'époque des radios libres, j'étais animatrice radio, donc je courais du lycée à la radio qui était juste à côté pour faire mes jingles moi-même, j'avais mes petites émissions sur Radio Arc-en-Ciel. Et là, du coup, comme j'avais pas encore de composition, comme j'avais rien à moi, je m'amusais à chanter par-dessus les disques.
D'accord.
C'est pour ça que je chantais tout le temps. J'étais très très fan de Corinne Charby à l'époque et je chantais derrière. Et comme j'avais un peu la même voix, ça s'entendait pas et donc j'étais trop fière.
Donc on rappelle Corinne Charby, ouais. À pile ou face,
exactement.
Boule de flipper.
Voilà. Ouais.
Qui roule.
Qui roule.
D'accord. Animatrice radio quand même, comme quoi il y a un destin. Premier rôle à la télévision, seconde B, et les héros font de la radio également.
Ben c'est ça. Et en plus on faisait Cosmic Radio, et je prenais exactement la même voix que quand je faisais Radio Arc-en-Ciel, donc c'était très drôle en fait. Je me retrouvais dans un espèce de truc, comme si je revivais des choses.
C'est ça, tu jouais un peu un ersatz de ta vie en
Mais
fait.
C'est un peu ça, c'est quoi le film avec, comment il s'appelle, Jim Carrey, où c'est toujours...
The Truman Show.
Voilà, c'était j'ai déjà vu ça quelque part.
Et donc, après, tu as fait le studio Pygmalion.
Alors donc, j'ai passé mon bac. Ça, c'était un petit peu la carotte.
D'accord.
Ma mère m'a dit, bon, d'accord, mais ton bac d'abord. Donc, en parent responsable. OK, donc je me suis dépêchée à avoir mon bac. Donc, je l'ai eu normal à 18 ans. Et je suis montée à Paris. Du coup, c'était ma petite, voilà, la petite récompense. Sauf que le bac tout seul, ça suffisait pas vraiment. Donc, j'ai fait une école d'hôtesse. J'ai fait n'importe quoi, en fait, pour avoir un truc en plus et pouvoir être à Paris. Mmh. Donc, j'ai choisi l'école à Paris, évidemment. C'était plus simple pour moi. Donc, pour, voilà. Et en même temps, j'ai commencé les cours d'art dramatique. Et donc, je me suis retrouvée au studio Pygmalion avec Pascal Luneau, qui était à l'époque, qui coachait Anne Parillo pour Nikita.
Est-ce que tu te souviens la première fois où tu es montée sur scène? Où tu t'es retrouvée face à un public?
Ah, en tant que chanteuse?
La première fois.
Ah bah oui, mais ça, j'étais toute petite.
Ouais.
Ouais. C'est les Tréteaux chantants de Chambéry, j'avais 6 ans.
Et tu t'en souviens?
Ouais, je m'en souviens très très bien. Je l'ai fait deux fois. J'ai fait une fois avec, je m'en rappelais très bien parce que j'étais avec ma meilleure copine, et on faisait le téléphone pleure de Claude François. Et j'avais des téléphones avec le fil. Et en fait, comme ma meilleure amie était aussi dans mon immeuble, le fil, il passait sur la façade, donc de ma chambre à sa chambre. Donc, on avait notre ligne.
Non.
Parce qu'on n'avait pas de portable. Bah, non, mais bah, j'ai 100 ans. Donc, il y avait ça. Et du coup, le téléphone pleure. Donc, on avait ça sur scène. C'était notre accessoire de jeu quand même.
Uh-huh.
Et donc, je faisais Claude François. Et la deuxième fois, c'était, je chantais Dalida, Génération 78.
D'accord.
Voilà.
Tu sais que tu vas avoir tous tes fans qui vont écouter, qui vont te demander d'insérer dans ton tour de chant une reprise de Claude François
oui,
ou de
oui.
Dalida.
Et ben, d'ailleurs, dans mon premier d'essence naturelle, je fais Porqué tes basses.
Oui.
Et c'est une chanson que j'adorais petite parce que j'avais l'impression d'avoir la même voix que Jeannette, ouais. Toujours. Et du coup, je chantais, je m'enregistrais. Et il y a le tout début sur le CD. C'est ma voix de quand j'ai à peu près 6 ans.
D'accord.
Voilà, j'ai retrouvé la cassette.
Dingue. Voilà. Alors, il y a une épreuve dans ce podcast.
Ouh.
C'est l'épreuve de la machine infernale. La machine infernale, c'est une machine qui tire au hasard une question. Mais comme le hasard n'existe pas vraiment, c'est toi qui vas actionner la machine.
D'accord.
Ton plus gros fou rire sur scène.
Ok. Plus gros fou rire sur scène, il y en a eu plusieurs. Si, à Lyon, au Ninkasi Kao, pour une tournée, donc j'avais fait ma petite tournée, c'était l'ultra tour, et on arrive, tout se passe bien, et d'un coup, les plombs sautent. Plus rien. N'est plus rien, j'avais plus de micro, les musiciens n'avaient plus de son, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. On était tous comme ça, sur scène, et j'ai dit, qu'est-ce que je fais quoi? Je sors de scène, et ça revient pas. Donc je dis mais c'est pas possible. Donc du coup on commence, j'y retourne, tant pis. Ma manager dit mais non, je dis c'est pas grave, j'y vais. Donc mort de rire, fallait mieux le prendre comme ça.
Ouais.
J'ai dit bon bah on va quand même faire la chanson. Le prochain titre c'était On fait l'amour avec le gimmick du rondo veneziano avec les violons. Sauf qu'évidemment il y avait pas de musique. Donc j'ai commencé à faire les violons à la voix. Donc ta na 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 et tout comme ça. Donc les gens étaient morts de rire, moi aussi. Donc ça a fait un espèce de fou rire général. Mm-hmm. On a tout fait à la voix, les gens, tout ça, et c'était super. Donc voilà, c'était un très très bon fou rire sur scène.
Merci. On passe à la deuxième partie de l'épisode qui s'appelle Les premiers pas. Alors, tu arrives à Paris, tu fais le studio Pygmalion, et
oui.
Quand on sort du studio Pygmalion, on fait quoi après?
On fait des castings, pour faire pendant d'ailleurs. Donc, en fait, c'est un parcours de comédienne normale, hein. J'ai fait des cours, et puis après, j'ai commencé à faire un peu de théâtre, des petites choses, et puis des castings. Et voilà, au fil des castings, il y en a un que j'ai décroché, donc c'était le Bertrand Tavernier.
Mmh.
Donc LT127, un tout petit rôle,
mmh.
Mais un rôle vraiment qui me tient à cœur parce que ça a été une très très belle rencontre avec Bertrand Tavernier.
Mmh.
Ça, c'est une très très belle expérience en tout cas pour moi.
D'accord. Arrive ensuite Seconde B.
Le fameux casting de Seconde B. Là c'était fou hein, parce que je me suis retrouvée avec des réalisateurs super sympas. C'était pas du tout de la télé, c'était pas du tout de la série. À l'époque, il y avait vraiment les sitcoms.
Mmh.
Bah, sur TF1, il y avait Hélène et les garçons. Et c'est vrai que ça n'avait absolument rien à voir. C'était des vrais scénarios. On était tous castés en tant que comédiens. On n'était pas mannequins. Et du coup, les réalisateurs, pareil, ils avaient fait des choses avant. C'était vraiment très pro. La production, je crois qu'ils avaient fait... c'était quoi, Le Grand Chemin?
D'accord.
On était en pente douce. Donc, c'était Flash Film.
Oui.
C'était une vraie boîte de cinéma. Et du coup, c'était... c'était vraiment... très bien fait, je trouve, pour l'époque. Et on s'entendait super bien. Moi, j'ai d'excellents souvenirs.
D'accord.
Et d'ailleurs, des fous rires sur cette série. Mais il y en avait tous les jours. Du coup, ma meilleure amie, c'est devenue Hélène Rams, qui faisait Pauline, la petite blonde
D'accord.
de la série, qui est la marraine de mes enfants. Enfin bon, c'est vraiment, toujours très très proches. On part en vacances ensemble. Enfin, ça a été une très très belle expérience.
D'accord.
Humainement, artistiquement, je regretterai jamais.
Et parallèlement à ça, toi, tu enregistrais déjà des
oui,
maquettes.
Oui. En fait, moi, je voulais être chanteuse. Donc, toujours, hein, c'était mon petit rêve de petite fille. Je serais comédienne et chanteuse. Donc, j'enregistrais. Je commençais à enregistrer des maquettes à droite à gauche avec des compositeurs. Et puis, je commençais à envoyer des cassettes en maison de disques. Et puis, un jour, eh ben, y a eu la signature chez Polydor. Donc, on m'a rappelé. Ça a été fait bizarrement. Parce que j'avais été échaudée par une autre maison de disques qui voulait absolument me signer. Et puis 15 jours après, j'avais plus de nouvelles. Donc je dis, ah oui, c'est comme ça. Donc en fait, c'est pas une légende finalement, c'est comme ça les maisons de disques. Et quand j'ai eu ce message sur mon répondeur, j'ai pas vraiment prêté attention. Et du coup, ils m'ont rappelé 2-3 fois. Ils m'ont dit, mais alors, on voudrait bien te voir. Tu fais quoi? Et là, j'ai dit, ah oui, en fait, oui, faut peut-être que je réponde et que j'y aille. Et c'était très sérieux.
Mmh.
Et c'était très sérieux.
S'ensuit un premier album chez Polydor.
Oui, d'essence naturelle, oui.
Et en 97, un super méga giga tube.
Mes rêves.
Ouais.
Il a été composé avec Daniel Castano, avec qui je compose tout, avec qui je vis, mon Pygmalion. Ce qu'on a adoré dans cette histoire, c'est que j'ai enregistré ce titre à Londres, avec les Rapino Brothers, qui sont des producteurs anglais, italiens de base, qui vivent à Londres. Et ils travaillaient avec Kylie Minogue.
Mmh.
J'étais fan de Kylie Minogue. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien la fille et la chanteuse. Et c'est vrai que déjà, rien que pour la petite histoire, ça faisait déjà rêver. Et on a passé comme ça beaucoup de temps avec cette équipe. Et je sais pas, il y avait une magie dans ce titre. On le sentait, on le sentait. C'était donc l'album Kamikaze. Il y avait la petite étincelle. En fait, c'était le titre qui était péchu, donc c'était quand même un up-tempo. Et en même temps, moi, j'arrive pas à faire des chansons que gay, G-A-I. C'est-à-dire, on viendra plus tard à autre chose,
on
a le temps. Mais il y a toujours une mélancolie. Et là, il y a une vraie mélancolie dans mes rêves, avec un up-tempo quand même. Et puis finalement, prendre ses rêves pour des réalités, ben, c'est plutôt chouette comme message. C'est un message très positif, mais avec toujours des petites notes mineures, des accords mineurs qui font qu'il y a cette mélancolie. Et je trouve que ces producteurs-là ont mis cette couleur musicale en avant, en tout cas.
Est-ce que tu penses qu'il y a eu un avant et après mes rêves dans ta carrière, mais aussi dans la façon dont les gens te regardaient, t'abordaient, que ça soit dans le métier ou dans la rue?
Forcément, quand on a un titre qui passe à la radio beaucoup de fois par jour, notamment sur Énergie, ça change la vie. C'est une question d'audience, de visibilité. Donc forcément, avant, il y avait eu Seconde B. Donc j'étais Nadia de Seconde B de la télé de France 2. Après, il y a eu la chanteuse avec les cheveux rouges. Mais finalement, les gens n'ont pas oublié Seconde B et ne m'ont pas vraiment vue autrement. Effectivement, ça a élargi un public parce que je passais à la radio. Donc voilà. Mais chouette, quoi. Très, très bien. Moi, si j'ai vécu l'avant mes rêves, l'après mes rêves, pas vraiment parce que... Parce que mon premier album, bah, c'était comme un premier album, d'essence naturelle. Puis après, il y a eu ce second, où peut-être qu'on a affirmé une orientation musicale. Le premier, c'était peut-être plus un album de présentation. Voilà, j'existe, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà comment je me présente. Après, voilà vraiment ce que j'ai envie de faire. Peut-être je me suis assumée dans un certain genre musical. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un avant et un après. Il y a surtout un parcours qui démarre.
D'accord. Et est-ce qu'à un moment... Tu t'es dit, peut-être c'est ce moment, ça y est, j'y suis arrivée, j'ai eu raison de choisir cette voie-là.
Mon principe de vie, c'est justement de faire des choix et de tout faire pour ne jamais les regretter. J'ai toujours voulu que ma vie soit une aventure extraordinaire. Donc forcément, c'était un démarrage. Et ça ne pouvait que continuer. Donc je ne suis pas d'une nature très 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 positive, mais n'empêche que ça... Je veux toujours me donner les moyens pour que ça dure. Donc forcément, il fallait que ça continue après mes rêves. Il y a eu c'est difficile, surtout quand un titre passe beaucoup. Donc on connaît les aléas de ce métier. Mais en même temps, je me suis pas, J'y crois, j'ai toujours cru. Je prends mes rêves pour les réaliser, je l'ai même chanté, hurlé, scandé. Donc voilà, pour moi, il n'y avait pas d'erreur de parcours.
Ok, donc les albums s'enchaînent dans diverses maisons de disques.
Oui, parce que voilà, le vrai parcours du combattant, il est là. C'est compliqué ce métier. On rencontre beaucoup de personnes, des gens qui nous veulent du bien, des gens qui nous veulent un peu moins de bien, qui nous font faire des mauvais choix. Et je déteste ça, parce que moi j'aime être responsable de mes conneries comme de mes succès. Et donc quand il y a une tierce personne au milieu qui se met puis qui nous voilà, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. J'ai eu un peu de mal à un moment avec des maisons de disques qui voulaient mettre dans une espèce de... On veut nous coller des étiquettes, on veut que ça marche, on veut que ça soit comme ci, comme ça. Je suis pas comme ça. J'écoute les gens qui me conseillent, qui m'accompagnent, bien sûr. Je ne sais pas tout faire toute seule, je ferai rien du tout. Mais je pense être vraiment très très bien accompagnée. Maintenant, ce métier, il faut être costaud.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'à certains moments dans les différentes maisons de disques, tu t'es un peu perdue artistiquement ?
On a voulu me perdre. On a voulu me perdre à partir du moment où on a essayé de me comparer à un paquet de lessive. Enfin, j'exagère un peu, tout petit peu. J'ai connu une équipe artistique chez Polydor, passionnée de musique. Ma directrice artistique qui m'a signée à l'époque était chanteuse elle-même, choriste, elle a fait des chœurs sur mon premier album. Donc on parlait vraiment musique, on disait voilà, elle me dit oui mais ta tierce là au niveau de, elle est vraiment sauvage parce que franchement tes chœurs et tout, mais on se parlait, il y avait un vrai truc et c'était vraiment artistique. Après, les autres maisons disques qui ont suivi, je vais pas citer de nom parce que ça sert à rien, j'avais l'impression qu'ils étaient dans un, ils sortaient d'école de marketing. Et alors, tout était histoire de package, de cible, de cœur de cible. Alors, on va toucher qui ? La ménagère de moins de 50 ans voilà, et on s'adresse à qui ? C'est important, certes, mais on peut, ça n'a rien d'artistique. Moi, je n'ai pas envie d'entendre ça. Et puis, je vais toucher qui je peux, et puis qui sera sensible à ma musique. C'est tout.
Clairement. Les albums s'enchaînent dans diverses maisons de disques. Et en 2006... tu décides de fonder ta propre société de production.
L'Ovarium Production, oui. Là, j'en avais vraiment marre. Je crois que la dernière chose, ça a été quand même Made in Japan, que j'avais signé chez Warner, où ils trouvaient ce titre génial, tout ça, tout va bien. Et puis finalement, comme un directeur de radio importante dit oui, on va le rentrer, puis il fait durer le truc pendant un an. Donc la maison dit que s'essouffle un petit peu, donc mais pas vraiment plus de choses, on fait pas de clips, on fait rien. Et puis ça stagne, et ça, moi, j'avais pas de temps à perdre. J'ai récupéré ma chanson, et comme par magie, elle devient un des hits de l'année, je sais plus quand, en Russie. Et là, on se dit, mais voilà, je faisais partie des plus grosses rotations en Russie. Pourquoi la Russie ? Alors là, faut pas me le demander, je n'en sais rien. Il se trouve que c'était quelqu'un qui bossait chez Europe 2, qui avait adoré cette chanson, et qui est devenu un des bras, des piliers de Europa Plus là-bas, un programmateur, qui a emmené ça dans sa valise, qui a fait écouter, et voilà, ça, et il l'a passé, et ça a cartonné là-bas. Et du coup, j'ai vécu des choses, mais extraordinaires en Russie.
T'es allée chanter là-bas ?
Ah ben, j'y suis allée au moins une dizaine de fois. J'ai fait le tour de la Russie, mais alors là, je connais des villes, mais Petropavlov, Kamchatsky, au fin fond du Kamchatka, où je crois qu'il n'y a que des ours, de la neige, des volcans et des sources naturelles chaudes, des trucs, mais insensés. Mais le plus insensé, c'est même pas ça, c'est que moi, j'ai découvert vraiment la Russie et c'est super beau. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment, voilà, Saint-Pétersbourg, c'est magnifique. J'ai vu Murmansk, Vladivostok, enfin, tout. Mais par contre, ce qui m'a vraiment, vraiment touché, c'est le fait d'être invité au Muse TV Award. Et là, c'est les plus grosses scènes que j'ai jamais faites de ma vie.
C'est l'équivalent de nos Victoires de la Musique ?
C'est plus les MTV Awards, hein, carrément. Okay. Au niveau du show, il y a 44 000 personnes, c'est un énorme show télévisé, et j'étais invitée d'honneur avec Katy Perry. Donc c'est vrai que quand je raconte ça en France, on se dit « elle est mytho, la Ferrer !» Elle est complètement mytho. Mais non, non, c'est vrai. J'ai fait Saint-Pétersbourg, pareil, un stade. Donc, c'est des moments magiques que j'ai jamais vécu en France. J'ai vécu d'autres choses, mais alors ce côté grandiose de la Russie, c'est juste exceptionnel, quoi.
Est-ce que, justement, dans la période où tu étais en maison de disque, ou la période maintenant où tu es en autoproduction, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « c'est trop dur, j'arrête, c'est pas pour moi » ?
Oui, j'ai des moments de down, des fois où vraiment les planètes s'alignent pour me faire du mal. Mais J'aime bien. Des fois, ça sert de toucher vraiment le fond. On rebondit mieux.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est un petit peu le principe des balles rebondissantes. Donc, oui, forcément. Il y a des moments de down où je me dis, mais vraiment, est-ce qu'un jour, je me suis dit, j'arrête tout? Franchement, non. Ça m'est jamais arrivé. Ou alors, c'était vraiment furtif. Parce que c'était vraiment un moment de grande dépression. Parce que non, j'ai toujours cette petite étincelle. Quand j'aurai plus, effectivement, j'arrêterai. Maintenant, c'est vrai que comme je communique beaucoup avec mes fans, ils sont très présents pour moi. Mm-hmm. J'essaye de l'être aussi à ma mesure pour eux. Et c'est vrai que quand on lit des jolies choses en se levant le matin parce qu'on regarde son Instagram ou son Facebook, ça donne du baume au cœur. C'est bête de raconter ça comme ça, mais en même temps, c'est tellement vrai, c'est tellement naturel et quelque part, c'est pur, et j'aime cette proximité.
Alors, on va aborder le sujet de tes fans, justement, dont une grande marge est le public gay.
Oui.
Est-ce que tu l'expliques, ça ?
Je l'explique pas vraiment. J'avoue qu'on pose souvent la question. C'est venu hyper naturellement. J'ai rien fait pour. Rien. J'ai juste été moi-même. Donc, à un moment, si je ne suis pas moi-même, qui le saura ? Ouais. Fallait que je la place. Non, c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être une histoire de sensibilité. Je suis plutôt une écorchée vive et j'ai l'impression qu'être gay à l'heure actuelle est peut-être encore pire avant, mais c'est vrai qu'on en parle plus maintenant, c'est pas si simple que ça, pas dans la tête de tout le monde, il n'y a rien de normal. Et je sais pas, peut-être qu'il se retrouve en moi, dans mes textes, dans ce côté festif. Dans ce côté faire la fête, et en même temps, je trouve ça très réducteur, et j'ai pas du tout envie de dire ouais, les gays, ils font la teuf dans le marais, c'est génial, pas du tout. Parce qu'au contraire, je reçois des messages hyper sensibles, et au contraire, ce sont des gens très sensibles, des personnes, peut-être avec une sensibilité accrue, je sais pas, parce que c'est pas facile. Parce que quand on se découvre gay un matin, je sais pas, effectivement, j'ai eu des histoires parce que j'ai été marraine du refuge. Et on m'a raconté des choses mais horribles. Des gamins qui se font mettre à la porte parce que non, t'es gay, quoi, t'es pédé, mais hors de question qu'il y ait un pédé dans la famille, je trouve ça monstrueux. Enfin, moi, je suis maman, donc comment c'est possible de renier un enfant comme ça parce que de le rejeter, de le foutre dehors par une orientation sexuelle, enfin, je trouve ça complètement... c'est surnaturel à notre époque, quand même.
Donc, tu ne l'expliques pas.
Je l'explique pas, c'est naturel, on se retrouve, on s'adore, on se kiffe, et voilà, c'est tout.
On va passer à la troisième partie, mais avant, tu dois encore repasser par l'épreuve de la machine.
Ah là là, la roulette russe.
C'est ça. Le plus beau compliment d'un spectateur ou d'un fan que tu as reçu?
Alors, si, je sais. C'était dans les transports en commun. Quelqu'un m'aborde. Quelqu'un me connaissait, qui me connaissait, et qui me dit que j'étais encore plus jolie au naturel qu'en photo ou qu'à la télé. Et j'ai trouvé ça trop mignon.
Ouais.
Parce qu'on est toujours là, non, mais on va m'en connaître, et puis je me suis pas mis assez bien et tout. Et là, franchement, je me suis dit, waouh, c'est. Voilà. Donc c'est super, c'est chouette quand on est une femme et qu'on nous dit ça, c'est beau. Donc voilà, c'est vrai que ça m'avait marqué.
Merci. On passe à la troisième partie qui s'appelle Au quotidien. Alors, au quotidien, être artiste, c'est quoi ? Et je dirais même plus être artiste et productrice. Est-ce qu'il y a des rituels, des démarches ?
Alors, ma vie, c'est un peu le why, hein, quand même. Donc, il n'y a pas vraiment de rituel. Il y a des rituels quand je monte sur scène, avec mes musiciens. Il y a des gris-gris que j'ai toujours sur moi au moment où, dans ma loge... Comme je monte jamais sur scène sans être parfumée. Enfin, des petites conneries comme ça, mais ça fait partie de mes petits rituels. Maintenant, des rituels de vie au quotidien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, j'ai un petit peu envie de dire que c'est vrai que je suis quelqu'un qui vit assez au jour le jour. En tant qu'artiste, forcément, ça va dépendre des périodes. Si on est en période de création, d'écriture, de composition, d'enregistrement... En période de pré-concert, donc on travaille un concert, donc c'est autre chose, c'est se préparer à la scène. Donc là, effectivement, je me remets à faire du sport. Moi, c'est tout comme ça, hein. C'est un peu un dents de scie, hein. Donc, je vais être à fond sur le sport pendant 4 mois. Et alors après, vive la raclette et la tartiflette. Hein. On se fait plaisir. Donc, bah oui, je suis savoyarde quand même. Donc, de oui, base. Bah oui. Donc, et du coup, non, il n'y a pas vraiment de rituel. Après, le côté production, bah, ça, c'est vraiment au jour le jour. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, on fait tout nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup... Le travail diffère entre la fabrication d'un disque, la composition, l'enregistrement, après la production d'un clip, d'une pochette photo. Donc il faut organiser des séances de studio, des séances de studio photo, organiser des rencontres avec des réalisateurs, monter un clip, donc peut-être avec un monteur de clip, avec un étalonneur, enfin c'est vraiment avec des graphistes pour... Bah pour faire une pochette, pour faire une affiche, pour faire n'importe quel visuel. Enfin, c'est riche.
Tu sors d'ailleurs d'une séance photo que tu as faite hier.
Oui, la pochette de l'affiche. Qui devra, si tout va bien, ce sera l'affiche du concert. Elle n'est pas finie. D'accord. On vient de shooter la photo.
Et alors, quelle ambiance pour l'affiche du concert?
Elle sera très XYZ. Sans blague.
Alors, tu nous disais que tu avais des rituels avant de monter sur scène, notamment avec tes musiciens. Et après le concert?
Alors, après le concert, c'est le moment où le track redescend. Parce qu'en fait, tout le monde me demande... Bon, je suis une grande traqueuse. Donc, alors avant, je suis par terre tellement je ne suis pas bien. L'adrénaline au taquet. Et en fait, on me dit, bah, ça y est, après la première chanson, tout va mieux, c'est bon, ça descend. Ah non, 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 ah non, non. Ouais. Moi, ça descend quand le rideau tombe. Donc, c'est jusqu'au bout. C'est une espèce... Après, peut-être que le track se modifie, ça devient une tension. Je suis toujours très, très tendue parce que, voilà. Mais non, c'est vraiment après. Et après, c'est le... Bah, si ça s'est bien passé, c'est l'épanouissement total, c'est le bonheur absolu. Mmh. Et déjà, le vide et le manque.
D'accord. Mmh. Est-ce que tu peux compléter ma phrase? Être artiste en 2020, c'est quoi?
C'est être un peu fou. C'est paradoxal parce qu'on peut être très réservé et avoir envie de monter sur scène. C'est ce que j'étais quand j'étais petite. Donc c'est un métier paradoxal. On peut finalement avoir plein de complexes et vouloir être regardé. Donc déjà, c'est de la folie en soi. Après, je parle vraiment, c'est personnel, hein, je ne fais pas une généralité de tout ce que les artistes pensent. Mais effectivement, il y a déjà cette folie-là. Donc maintenant, peut-être qu'en 2020, c'est encore pire, parce que on a des outils de communication, certes, ultra développés, et en même temps, de moins en moins naturels. Donc j'ai envie de dire que ce côté, garder son naturel et réussir avec ce naturel qui nous est propre, c'est très compliqué dans une société où on nous formate, on nous juge, on nous jauge, on nous comptabilise, et où tout est fait de chiffres. Et j'en parle dans mon album, dans une chanson qui s'appelle Question de taille. On est quoi? Un artiste, c'est quoi? En chanson, même au niveau comédien, c'est un nombre d'entrées de films, c'est un nombre de vues sur YouTube, c'est un nombre d'écoutes sur Spotify. C'est quoi? C'est ça un artiste? On le pèse? Non, c'est pas ça. Un artiste, c'est quelqu'un qu'on apprécie. Et qui va rentrer chez nous et qui va s'adresser à nous dans nos oreilles, qui va nous chatouiller les oreilles avec des textes et une voix. Enfin moi c'est comme ça que je vois le métier quoi.
J'ai l'image des chanteurs qui rentraient chez nous par la télévision ou par le disque qu'on allait acheter, mettait pour la première fois sur la platine.
C'est des coups de cœur. En fait on marchait au coup de cœur. On aime, on n'aime pas. Mais maintenant encore faut-il avoir l'exposition pour être aimé ou détesté. Et ça, c'est compliqué. Et est-ce qu'il faut absolument, maintenant, pour être vu, est-ce que c'est le buzz, il faut absolument buzzer de n'importe quelle manière? Donc déjà, en voulant buzzer, on a déjà perdu son naturel. Donc finalement, c'est déjà un petit peu faussé. Donc c'est vrai que je pense que c'est compliqué.
Clairement. Clairement. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est déjà la dernière fois que tu vas
la roue de la fortune.
Tu vas pas gagner grand chose. Hein. Une fraise tagada.
Ah ouais.
Ton premier cachet.
Alors, mon premier cachet. Je pense que c'est. Non, c'est de la figuration. Quand j'étais en cours d'art dramatique, j'ai fait de la figuration. J'ai commencé, comme tout le monde, voilà, je faisais mes cours d'art dramatique, mes castings, et je cachetonnais un peu en figure, en tout ce que je pouvais un petit peu faire. Ou alors, c'était de la figuration. Non, c'était, je posais, à l'époque, il y avait le magazine OK, Podium, tout ça.
Ouais.
Ah non, c'est horrible, faut surtout pas retrouver ça. Ça, c'est de la grosse casserole, des dossiers horribles. Et il y avait des espèces de romans photos.
OK.
Et genre, on mettait un nom, oui, alors machine a été plaquée par son mec, elle est très 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 jalouse. Et donc, il fallait que je pose, je m'y mets avec un mouchoir, comme ça j'étais trop triste. Puis après, je faisais genre, je m'engueulais. Et on était shooté par un photographe, uh-huh. Et après, ça illustrait l'article. C'était ridicule, c'était un cauchemar. Mais c'était ça, voilà, c'était ça mes premiers cachets.
J'ai des amis qui collectionnent
toute
la presse ado des années 90.
Quelle horreur!
Ils sont déjà
en train de fouiller.
Au fond de leur tiroir. Merci de cette franchise, en tout cas, et de ce scoop que tu nous as dévoilé. On passe à la dernière partie de cet épisode, la dernière partie qui s'appelle « Aujourd'hui et demain ». Alors aujourd'hui, ton actualité, c'est cet album XYZ, précédé du single Né sous X,
oui.
Avec un clip tourné en Californie.
Alors, c'est Follow Me que j'ai tourné en Californie.
D'accord.
Né sous X, je l'ai fait en studio. Et oui, Follow Me, on est parti donc à Los Angeles. Tourner des images là-bas, c'était super. On voulait vraiment faire un espèce de parcours de la youtubeuse, instagrammeuse, voilà, qui veut multiplier justement le nombre de followers. Donc c'était vraiment une illustration directe de ce nouveau métier qui est influenceuse. Et voilà, c'est pas une parodie, c'est plus un... J'avais envie de montrer qu'effectivement, oui, c'est vrai que c'est un nouveau métier.
Mmh.
Et que, mais cette course acharnée, la course au like... En tout genre, et on est prêt à tout pour multiplier les nombres de vues et le nombre de likes, donc à inviter les gens dans son intimité et tout ça, donc je voulais un petit peu que ça soit un peu culotté pour montrer jusqu'où on peut aller, et c'est vrai que ça regroupe aussi une étude, enfin tout ce qui est télé, télé-réalité, où les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour être connus, quoi.
Alors, on parlait aussi tout à l'heure de la nouvelle façon de produire des disques et d'être artiste. Il faut dire que cet album a été précédé de 3 EP.
Mm-hmm.
Hein, donc, des EP, pour les gens qui ne savent pas, ce sont des mini-albums.
Oui, c'est ça.
De présentation. Donc, il y a eu l'EP X, l'EP Y et l'EP Z.
En fait, c'était vraiment... J'ai voulu faire cet album en 3 temps. C'est ce que je dis, c'est un triptyque. Donc avec non seulement les 3 pochettes, le X, le Y, le Z, et c'était surtout une volonté de présenter l'album, parce que je savais que derrière il y avait l'album, en 3 temps, ça donnait un petit peu la chance aux chansons d'exister et d'être appréciées, parce que quand on livre tout d'un coup, 12, 15, 17 chansons, c'est super, mais j'ai l'impression que... J'aime bien comparer ça avec la naissance d'un bébé. Mmh. C'est comme si t'accouchais de plein de bébés et du coup, tu t'en occupes que d'un. T'en mets un en avant et les autres, non. Ils passent à la trappe. Ben non, justement, j'avais envie de faire découvrir ces chansons comme si ça correspond en plus le X, Y, Z à 3 périodes. À 3 périodes en sociologie, c'est la génération X, donc des années 80, 90 plus Y et Z 2000. Donc, il y a des influences au niveau des sons, au niveau des thèmes abordés, qui correspondent un peu à chaque époque. Donc j'avais vraiment envie de séparer ça en 3 pour un peu amener le concept et faire comprendre le concept et puis montrer qu'en fait c'est un album à XYZ, c'est vraiment les influences de... Je voulais que ça soit un album aux couleurs des influences, mais pas des influences du moment. En fait, des influences de toute une vie.
Mmh.
Donc parce qu'effectivement, moi j'ai grandi dans les années 80, donc j'ai pris des sons, des ambiances, il y a des choses qui sont passées dans les années 80 qui m'ont touchée. Donc, et puis après, ben voilà, il y a le temps a fait son chemin, moi aussi. Et du coup, dans ta tête, ben, t'as plein de souvenirs, t'as plein de références qui s'accumulent. Et c'est cette accumulation de tout ça qui fait XYZ.
Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et demain, il va se passer quoi ?
Et demain, c'est le concert. Enfin, dans 4 mois, mais c'est demain pour moi. J'ai déjà la boule au ventre, comme si c'était demain. Et ben enfin, le retour sur scène avec un concert, enfin avec deux concerts, donc XYZ Show Tour, on verra plus tard en tout cas. Et j'ai tellement hâte. Et je voulais justement faire deux dates parce que j'ai tout le temps été frustrée de faire une seule date. Parce que ok, j'ai fait la dernière, c'est la Cigale, j'ai adoré la Cigale, ça s'est hyper bien passé, c'était rempli. Mais quelque part, quelle frustration le lendemain de se dire on va pas pouvoir refaire. Donc c'est un one shot et si quelque chose se passe plus ou moins bien, c'est voilà, et je veux vraiment, j'ai envie d'en profiter aussi. J'ai trouvé une salle, un vrai coup de cœur, donc les CAM, l'espace culturel André Malraux, c'est au Kremlin-Bicêtre, donc ouais. C'est vraiment aux portes de Paris, à côté de la porte d'Italie.
Alors j'ai fait une simulation pour y aller, c'est hyper facile,
ah oui,
c'est métro ligne 7, station Le Kremlin-Bicêtre et c'est à 3 minutes
c'est
à
ça.
Pied.
Ah non, c'est hyper pratique, donc c'est vraiment pour moi c'est parisien pour le coup, mais c'est surtout que cette salle c'est un amphithéâtre, donc avec une acoustique super, des gradins, une fosse, vraiment la configuration est parfaite pour ce que j'ai envie de faire, le plateau est géant. On va pouvoir faire beaucoup de choses sur scène. Et avant, enfin, ce sera un concert, mais c'est un... J'ai envie de dire que c'est une rencontre dans un bel espace que j'ai envie de m'approprier. Parce que j'ai envie de faire une exposition. J'ai envie un vrai lieu pour ça, donc ça s'y prête. Pourquoi pas des photos inédites, peut-être des tenues, des choses, enfin. Une rencontre avec des fans, il y aura un espace photocall où ceux qui veulent se faire des selfies, un peu sympa. J'ai envie que les gens se rencontrent parce que les fans se connaissent au fur et à mesure des années. Au fil du temps, ils apprennent à se connaître. Et c'est aussi, j'ai envie que ça soit leur lieu. Voilà, ce sera où tous les ultras vont pouvoir se rencontrer.
C'est donc le 22.
Le 22 et le 23 mai.
Voilà. Donc, à l'ECAM, on aura toutes les infos. On a déjà toutes les infos.
On a les infos, il y en aura d'autres parce que je vais, voilà.
Sur tes réseaux sociaux.
Oui. Mesaffaires.com et puis ben sur Facebook officiel, Instagram officiel.
Très bien, dernière question. Et dans 10 ans, tu te vois où ?
Alors, j'ai pas amené ma boule de cristal sur moi là. Tu comprendras plus tard pourquoi je parle d'une boule de cristal.
D'accord.
Voilà. j'en sais rien, j'ai pas envie de me projeter. Je sais pas. Franchement, et ça me fait. J'aime pas les marqueurs de temps. Je déteste Noël, je déteste le jour de l'an, je déteste le jour de mon anniversaire. Donc tout ce qui fait que le temps passe, j'aime pas. Donc me dire dans 10 ans je ferai quoi, ouh, ça m'angoisse. Donc j'en sais rien, on verra.
On se projette pas.
Non.
En tout cas, il y a une chose qu'on te souhaite, c'est d'être heureuse dans 10 ans, mais aussi aujourd'hui.
Ah ben alors ça, je veux bien. Merci beaucoup en tout cas.
Un grand merci, Isa.
Merci à toi.
J'ai été très touché que tu acceptes ma proposition de faire cet épisode ensemble et on me l'aurait dit il y a quelques années, hein, je l'aurais pas cru. Hein. Merci également à tous les auditeurs du podcast qui sont toujours de plus en plus nombreux. Nous en sommes déjà au 10e épisode depuis le mois de septembre. Cela fait plus de 5 heures d'entretien. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques sur les épisodes que vous avez déjà écoutés. Cela nous fera très plaisir de les lire. Ce qui est sûr, c'est que je chercherai constamment à m'améliorer. Alors, à vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour partager vos coups de cœur sur le podcast, mais aussi les choses que vous aimez moins ou que vous trouvez moins pertinentes. Vous pouvez également envoyer des suggestions de noms d'artistes que vous aimeriez entendre raconter leur histoire. Je remercie enfin Matou, qui a assuré les réseaux sociaux, et Damien pour ses infos et les fraises d'Agada. Je vous retrouve donc dans 15 jours avec un ou une nouvelle invitée qui feuilletera avec nous les pages de son parcours artistique. Merci Isa.